Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 22 décembre 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le conseiller à la sécurité nationale d'Afghanistan est en visite à Téhéran. Il a rencontré le secrétaire du conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran et également le ministre iranien des Affaires étrangères. Téhéran réfute fermement les allégations irresponsables du secrétaire d'État américain. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution confirmant la souveraineté permanente du peuple palestinien sur son territoire occupé. Pandémie, la nouvelle variante du virus n'est pas hors de contrôle selon l'OMC. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. L'Iran est déterminé à se venger des auteurs de l'assassinat du martyr Qassem Soleimani, empêcher les actes terroristes et provocateurs des États-Unis et de leur vallée et finir par les contraindre à quitter la région, a souligné aujourd'hui le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, l'amiral Ali Shamkhani, lors d'une rencontre à Téhéran avec le conseiller à la sécurité nationale à Afghan, Hamdullah Mohib. Responsable iranien a réitéré la politique de principe de l'Iran et qui consiste au bon voisinage et à l'établissement de relations stratégiques avec tous les voisins. Ali Shamkhani s'est dit satisfait de l'inauguration du chemin de fer Khaf-Herat, projet qu'il a souhaité pouvoir contribuer à la promotion des relations des deux pays, aussi bien avec au bonheur et progrès économique de l'Afghanistan. La République islamique d'Iran est déterminée à se venger des auteurs de l'assassinat du martyr Qassem Soleimani, empêcher la poursuite des actes terroristes et provocateurs des États-Unis et de leur vallée et finir par les contraindre à quitter la région, a-t-il souligné, parlant des menaces qui se présentent pour les deux pays voisins, à savoir l'Iran et l'Afghanistan, et de la nécessité d'une coopération accrue qui conduirait à l'établissement de la sécurité et à la stabilité dans la région. Le conseiller à la sécurité nationale d'Afghanistan a rencontré également le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Les deux hommes se sont entretenus des questions d'intérêt commun, des évolutions régionales et des questions internationales. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du groupe des 4 plus 1, à savoir la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Chine et plus l'Allemagne, ont souligné lundi dans un communiqué que la résolution 2231 du Conseil de sécurité reste un élément clé de l'architecture mondiale de non-prolifération nucléaire et une réalisation significative de la diplomatie multilatérale qui contribue à la sécurité régionale et internationale. La réunion non officielle des participants au plan global d'action conjoint à l'accord sur le nucléaire iranien s'est tenue lundi par la vidéoconférence. Téhéran réfute fermement les allégations irresponsables de Mike Pompeo. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a fermement rejeté les récentes allégations irresponsables anti-Iran du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Nous réfutons fermement les accusations irresponsables contre l'Iran de Pompeo qui visent ouvertement à créer des tensions, a tweeté Khatibzadeh lundi. L'Iran rejette toute attaque contre les missions diplomatiques. La présence militaire américaine est à l'origine de l'instabilité dans notre région, a-t-il noté. Aucune quantité de sparres ne peut détourner le blâme de ces mots, a-t-il ajouté encore. Et de transition est faite pour parler de la question palestinienne. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution confirmant la souveraineté permanente du peuple palestinien sur son territoire occupé. L'agence de presse Wafa a rapporté que l'Assemblée générale avait adopté à l'unanimité la résolution sur la souveraineté permanente du peuple palestinien sur son territoire occupé, y compris Al-Quds. 153 pays ont voté pour, tandis que 6 contre et 17 pays se sont abstenus de voter. Le ministre des Affaires étrangères, en fait, du côté palestinien, Riyad al-Maliki, a déclaré que le vote est une confirmation internationale du droit ferme et inaliénable du peuple palestinien à ses ressources naturelles sans porter atteinte à ses droits et à sa mère et à la compensation pour l'exploitation par l'occupation israélienne de ses ressources naturelles. La Russie dément être à l'origine des cyberattaques ayant visé les États-Unis. Le Kremlin a démenti d'être à l'origine de la vague de cyberattaques sophistiquées ayant visé des services fédéraux et entreprises aux États-Unis, dénonçant les accusations pointant la Russie comme infondée et relevant d'une russophobie. Ces cyberattaques n'ont rien à voir avec nous car la Russie n'est pas impliquée dans ces attaques, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Toutes les accusations d'une implication de la Russie sont absolument infondées et s'inscrivent dans la continuité d'une russophobie aveugle que l'on constate à chaque incident, a-t-il ajouté encore. Pandémie, la nouvelle variante du virus n'est pas hors de contrôle selon l'OMC. La nouvelle variante du coronavirus découverte au Royaume-Uni à la transmission plus élevée n'est pas hors de contrôle, a affirmé l'Organisation mondiale de la santé appelant à appliquer les mesures sanitaires ayant fait leurs preuves. Nous avons eu un RO, taux de reproduction du virus, beaucoup plus élevé que 1,5 à différents moments de cette pandémie et nous l'avons maîtrisé. Cette situation n'est donc pas en ce sens hors de contrôle, a déclaré le responsable des situations d'urgence sanitaire à l'OMC, Michael Ryan, en conférence de presse. Ses propos faisait écho à ceux du ministre de la Santé britannique qui a estimé dimanche que la nouvelle souche du coronavirus était hors de contrôle. Et pour terminer notre journal d'information, 5 militaires nigériens ont été tués dans une attaque terroriste dans l'ouest du pays. 5 militaires nigériens ont été tués dans une attaque terroriste près de Taron, département d'Oualam, dans la région de Tillaberi, située dans l'ouest du pays, proche de la frontière avec le Mali, a-t-on appris de sources sécuritaires. Il s'agit d'une patrouille de l'armée qui est de tomber dans une embuscade étendue par les terroristes à environ 50 km au nord de Taron, ont précisé les mêmes sources. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Ironie de l'histoire, les États-Unis démentent leur implication dans les conflits au Yémen, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Les États-Unis démentent leur implication dans les conflits au Yémen pour ainsi se débarrasser des résultats embarrassants que l'Arabie Saoudite y a accumulés. À travers un article intitulé « Pourquoi l'Amérique ne devrait pas être impliquée au Yémen », le quotidien américain de National Interest suggère implicitement que les États-Unis ne sont pas encore engagés dans les conflits au Yémen. Cela alors que les États-Unis apportent un soutien direct à la coalition d'agression saoudienne au niveau d'équipement et de conseillers militaires, étant ainsi impliqués dans les misères subies par le peuple yéménite. Voici en fait des parties de l'article du National Interest rédigé par Fiona Harrigan et publié le 18 décembre. Le président Donald Trump quittera bientôt la Maison-Blanche, mais l'ombre de ces 4 années turbulentes de politique étrangère persistera. Le président élu Joe Biden était déjà engagé dans la formidable tâche de regagner la confiance de la communauté internationale. Mais les dernières semaines du président Trump ont été remplies d'efforts de dernière minute pour consolider un héritage à l'étranger qui a été conflictuel, en particulier avec l'Iran, ajoute le quotidien américain. Et de continuer ces efforts comprennent une promesse d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, des visites du département d'État sur les hauteurs du Golan et en Cisjordanie et une vente prévue de 23 milliards de dollars d'armes aux Émirats arabes unis. Tout cela est assez calculé. Une source du département d'État a partagé avec CNN que l'administration Trump essayait de rendre plus difficile pour Biden d'annuler sa politique, toujours selon National Interest, et d'ajouter des étincelles traversent le Moyen-Orient, mais aucun endroit n'est plus en feu que le Yémen. Et pour Biden, qui a juré qu'il mettrait fin au soutien américain à la guerre au Yémen, les mesures de dernière minute de Trump de là-bas ne manqueront pas de poser un problème.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat lors de nos rencontres avec la famille du martyr Soleimani, assassiné il y a presque un an dans une attaque américaine à l'aéroport de Bagdad. Le leader de la révolution islamique a souligné que l'Iran se vengerait certainement, en effet, des responsables de cet assassinat lâche. L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que les Américains n'avaient atteint aucun de leurs objectifs, ni en Irak, ni en Syrie, du vivant du général Soleimani, soulignant que même après sa mort, les États-Unis continuaient à échouer. Le leader de la révolution islamique a affirmé par ailleurs que l'hostilité des Américains envers la République islamique d'Iran n'était pas le fait d'Obama ou de Trump. Dans ce contexte, l'honorable Ayatollah Khamenei a exhorté les responsables du pays à mettre tout en œuvre pour neutraliser en effet les sanctions illégales et unilatérales des États-Unis. Le leader de la révolution islamique a par ailleurs critiqué en effet les Européens pour leur inaction, voire leur hypocrisie et méchanceté envers la nation iranienne, bien sûr, dans le contexte de l'accord nucléaire de 2015. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce discours important du leader de la révolution islamique. La situation dans la région, notamment en Irak et en Syrie, presque un an après le martyr du général Soleimani, le positionnement des Européens envers, plutôt le suivisme des Européens envers les États-Unis concernant leur politique hostile à l'encontre de la République islamique d'Iran et bien entendu, en effet, les conséquences de cet échec maximal des Américains dans la région après le martyr du général Soleimani. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À l'approche du premier anniversaire du lâche assassinat du commandant en chef de l'axe de la résistance, le général de corps d'armée Qassem Soleimani, le leader de la révolution islamique que les médias mainstream donnaient pour être souffrant, a reçu en audience la famille du général, un certain nombre de responsables militaires et politiques du pays, dont le commandant en chef du CGRI. L'Ayatollah Khamenei a évoqué le mercredi 16 décembre les funérailles historiques du général Soleimani et du commandant Abu Mahdi en Irak et en Iran, une première gifle soufflée au visage criminel des États-Unis. Mais la gifle encore plus sanglante sera de briser l'aura de l'arrogance en mille morceaux en ayant entre autres recours au soft power et puis à l'expulser tout bonnement de la région. Quant aux commandataires et aux auteurs de ce crime, il faut qu'ils soient punis. Et c'est là une punition irréversible qui tombera au moment propice, a-t-il indiqué. Le leader de la révolution islamique est revenu ensuite sur les commémorations marquant le premier anniversaire de la mort en martyr du grand général. Son assassinat a fait date, faisant de lui un héros national non seulement pour toute la nation iranienne, mais aussi pour le peuple musulman. La raison en est qu'il a été l'incarnation des grandes valeurs humaines et iraniennes. Soleimani a été l'essence même de notre culture, de notre civilisation qui chérisse deux articles d'or. Bravoure et résistance, ces deux caractéristiques font partie de notre conscience nationale qui repousse la pusillanimité et la faiblesse comme étant des contre-valeurs. Le monde entier reconnaît que ni en Irak ni en Syrie, les Américains n'ont atteint aucun de leurs objectifs. Eh bien, c'est là le chef-d'œuvre de Soleimani de son vivant. Mais même après sa mort, les États-Unis continuent à échouer. L'hostilité des États-Unis à l'égard de l'Iran n'est pas le fait d'Obama ou de Trump. L'Amérique d'Obama nous a menti. L'Amérique de Trump nous a fait la guerre. Celle qui se pointe ne fera guère mieux. Quant aux trois pays européens, France, Grande-Bretagne, Allemagne, les Iraniens n'ont vu en eux que de l'hypocrisie, la malveillance, l'apathie. Le leader de conclure, « Je reste aux côtés de nos autorités tant qu'elles resteront aux côtés de notre peuple. »
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français, et depuis Paris avec madame Aïssa Hamidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Hamidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de m'avoir invité.
Madame Hamidani, mercredi, le leader de la révolution islamique a accordé une audience à la famille du martyr Soleimani, mais aussi aux responsables politiques et militaires du pays. Alors, dans son discours, l'ayatollah Khamenei s'est attardé sur trois points importants. D'abord, bien sûr, le rôle crucial du général martyr Soleimani dans la lutte contre le terrorisme. Deuxièmement, bien sûr, alors le positionnement des révélations plutôt, des mises en garde sur la prochaine politique de l'administration, de la nouvelle administration américaine envers l'Iran. Et troisièmement, bien sûr, sur la nécessité pour les responsables et la population iranienne de neutraliser les sanctions. Si vous voulez bien, nous allons commencer par justement la place importante, le rôle crucial du général Soleimani. On s'approche du premier anniversaire de l'assassinat du général Soleimani. Alors, le leader a souligné que du vivant du général Soleimani, les Américains n'avaient atteint aucun de leurs objectifs, ni en Irak, ni en Syrie, et que même après sa mort, les États-Unis continuaient à échouer. Alors, bien sûr, après le martyr du général Soleimani, une première gifle a été soufflée lors des tirs de missiles contre la base américaine d'Ain al-Assad en Irak. Mais, bien sûr, la vengeance serait, comme les autorités iraniennes l'ont souligné justement il y a presque un an, le retrait total, l'expulsion totale des Américains de la région. Alors, quel regard portez-vous, quel constat tirez-vous justement d'abord du rôle crucial du martyr Soleimani de son vivant, et puis depuis justement un an, depuis l'année dernière, depuis l'assassinat du général Soleimani, où en est-on de la situation, en effet, de la présence militaire des Américains dans la région, en Irak, mais aussi en Syrie?
D'abord, permettez-moi d'adresser Rahmé et au général Soleimani, en fait, que Dieu bénisse son âme. C'était vraiment un grand combattant, un grand stratège et un grand être humain, en fait, dans ses relations avec tout le monde. Effectivement, au niveau de ses réalisations, je peux dire aussi bien sur le plan politique, en fait, le général Soleimani a permis, dans son travail et dans ses rapprochements de l'ensemble des dirigeants et des forces, je dirais, à haut niveau et moins haut niveau, des forces de l'axe de la résistance. Il a réussi à créer une unité très importante et un engagement très important des uns aux côtés des autres au niveau de l'axe de la résistance, c'est-à-dire au niveau, par exemple, au niveau de la résistance libanaise, au niveau de l'armée arabe syrienne et des forces alternatives, en fait, qui sont liées des forces populaires autour de l'armée arabe syrienne, au niveau de la résistance irakienne, au niveau de la résistance palestinienne et de la résistance yéménite. Bien sûr, sous sa direction et en grande amitié avec le peuple iranien. Ça, c'était important et ces facteurs ont été décisifs dans l'avancée, dans la lutte contre le terrorisme, aussi bien en Syrie, au Liban, en Irak et aussi en Iran et au Yémen. En fait, c'est cette unité qui a été scellée d'amour et de détermination, je dirais, au combat contre l'occupant, contre les usurpateurs, en fait, des droits des peuples, elle a été vraiment décisive dans dans l'accumulation, je peux dire, des victoires. dans la libération d'une grande partie, d'abord de l'ensemble d'une grande partie du territoire syrien, d'une grande partie du territoire libanais aussi, et une grande partie du territoire irakien, puisqu'il y a eu dès les premiers jours une coordination sécuritaire de renseignement, de sûreté, etc., qui a été scellé entre les trois parties contre les terroristes, de Daesh, d'Al-Nusra et l'ensemble des factions terroristes. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a plus de 130 organisations qui ont été en Syrie. Bien sûr, c'était principalement Daesh al-Nusra, mais il y avait aussi l'armée du Turkestan, la bannière de l'islam, etc., etc., sous différentes appellations. Et à chaque fois qu'il y avait une qui était défaite, elle se décomposait, elle créait d'autres organisations, etc. Donc, bien sûr, ceci aux côtés aussi des amis. Du soutien officiel, je dirais, iranien, mais aussi aux côtés de l'ami russe qui aidait aussi dans cette lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est un point très, très important. Je crois qu'on lui doit beaucoup aussi dans la libération des points les plus difficiles, en fait, de la badia syrienne et irakienne, où la nature et la morphologie du terrain est particulièrement difficile à franchir et difficile en plus aussi des conditions climatiques qui étaient en été très 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 chaudes et en hiver très froides. Tout ceci dû à la détermination et en fait au sens stratégique et tactique militaire du général Soleimani, nous avons réussi ensemble.
Merci,
à
Dany.
Libérer la Badia et une grande partie aussi du désert irakien. Ce qui nous a valu à un moment donné une possibilité d'ouverture des voies terrestres entre la Syrie et l'Irak.
Merci infiniment pour ces éclairages, Madame Midani. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Dortillier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, Monsieur Redavandi. Bonjour à vos auditeurs. Et vraiment, mes meilleures salutations et toute mon admiration pour Madame Midani, qui a fait un exposé remarquable.
Madame Midani l'a rappelé, Monsieur le professeur, le général Soleimani était un génie, en effet, militaire, avait un sens tactique. Et comme l'a rappelé dans son récent discours, le leader de la révolution islamique, bien sûr, du vivant du général Soleimani, les Américains n'avaient atteint aucun de leurs objectifs en Irak ni en Syrie. Ceci étant dit, alors les États-Unis continuent justement à échouer, même après la mort du général Soleimani. Dans quelle mesure le martyre du général Soleimani a fourni à l'Iran les moyens pour atteindre justement, pour prendre cette revanche ultime, à savoir l'expulsion totale des Américains de la région?
Mais l'action du général martyr Soleimani, à notre avis, a un double effet. C'est-à-dire qu'elle a permis, bien sûr, à l'Iran d'abord d'apparaître comme, disons, l'impulseur de la résistance générale contre tous ces groupes terroristes qui ne sont que des mercenaires au service de l'État usurpateur israélien, au service des forces qu'on appelle les mondialistes, les globalistes, qui veulent transformer les nations, les appauvrir. En réalité, c'est cela, leur ôter surtout leur capacité d'indépendance, vous voyez, c'est-à-dire en faire des véritables esclaves soumis à leur technique. Et voilà, disons, c'est une nouvelle colonisation, disons, mais dans des formes bien pires que les premières colonisations. De ce côté-là, le général Soleimani avait donné non seulement des arguments, des techniques, pour les techniques, mais en même temps, disons, donné confiance. Il avait donné confiance en eux-mêmes, disons, aux gens qui appartiennent à l'acte de la résistance. Et les États-Unis suivaient, en effet, depuis toujours, cette politique qu'ils ont commencé il y a très longtemps, enfin disons illustrée surtout à l'Irak et au service bien sûr, car qui c'est qui profite de cela au service de l'antité sioniste naturellement, Et je crois que le général Soleimani, non seulement a permis cette victoire, mais il a permis également aux États-Unis, disons, grâce aux défaites qu'ils subissent, justement de prendre peut-être conscience d'eux-mêmes et de montrer qu'ils ne travaillent pas eux-mêmes dans le sens de leur propre intérêt à long terme. Ils travaillent en réalité au service de forces qui eux-mêmes les détruiront dans leur propre pays, comme ils détruisent aujourd'hui la civilisation, comme ils veulent détruire la civilisation musulmane, la civilisation islamique et chez nous, la civilisation européenne. Je crois que comme tous les héros, il y a une dimension qui dépasse le temps, vous voyez, c'est-à-dire plutôt une dimension qui se retrouve dans la suite des temps. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est lié à telle ou telle action. C'est pour ça que ce qui nous a beaucoup frappé dans le discours de l'Ayatollah Khamenei, c'est qu'il voit cette revanche, cette vengeance, vous voyez, de la mort du général martyr, en réalité comme une sorte de libération générale, voyez-vous, de cette sorte de, comment on appelle, de cancer, d'intoxication qui recouvre le monde occidental, qui fait que notre Europe n'est plus une Europe, disons, capable même d'affirmer sa propre existence, d'avoir une parole équilibrée, etc. Nous-mêmes, disons, nous souffrons, si je puis me permettre ces images, d'une sorte de cancer, d'une sorte d'affaiblissement profond. Et devant cet affaiblissement profond, je dirais que l'image du général Soleimani est une image qui correspond à celle que nous avions, disons, de l'Iran, par la culture, etc., Iran ancien ou Iran moderne, c'est-à-dire le modèle d'une bravoure, le modèle d'une sorte de chevalerie, voyez-vous. Et cela, c'est réalisé, c'est pas une affaire de passé, c'est une affaire de temps, c'est une affaire, disons, constante. Chaque peuple a son génie, et là, je crois que le génie de l'Iran et de ceux qui sont autour de lui, qui ont bénéficié justement de cet éclat iranien, que ce soit en Irak, en son histoire, que ce soit en Syrie, avec ce qu'on appelle la civilisation islamique, justement, eh bien, je crois qu'en brillant, ainsi comme elle le fait contre ses adversaires, je crois qu'elle donne, je parle en européen bien sûr, qu'elle donne à moyen terme en tout cas, un courage aussi aux Européens et à ceux aux États-Unis qui commencent plus ou moins dans le brouillard à comprendre qu'ils ne sont pas en réalité en train de travailler pour eux-mêmes. Les soldats américains ne meurent pas pour eux-mêmes. Ils meurent pour des hommes d'affaires internationaux, pour des usuriers, pour des usurpateurs, voyez-vous. Ils ne défendent pas l'Amérique quand ils sont entrés, soit en Afghanistan ou en Irak, ou quand ils veulent menacer l'Iran. Non, en réalité, ils travaillent pour leur propre décomposition.
Merci, monsieur le professeur.
C'est ça la véritable vengeance de la Providence, c'est que le mal se détruit lui-même, tandis que le bien se renforce. Voilà, dans ce sens-là, que je verrai l'intérêt à long terme, d'ailleurs, des propos tenus par l'Ayatollah Khamenei.
Merci infiniment pour ces précisions, monsieur le professeur. Restez avec nous. Madame Idani, alors, le leader de la révolution islamique s'est également attardé sur l'hostilité des Américains qui ne se limite pas, en effet, à une administration. Et dans ce contexte, il a souligné que, justement, cette hostilité n'était pas le fait d'Obama ou de Trump ou de Biden. Donc, dans ce contexte, il a appelé, justement, là, c'est un message non seulement au peuple iranien, aux responsables politiques iraniens, mais aussi peut-être au monde entier et même aux Européens de ne pas faire confiance à l'ennemi. Parce que dans ce contexte, les États-Unis ne sont pas seulement l'ennemi de la nation iranienne, mais l'ennemi de l'humanité tout entière, en quelque sorte. Alors, ceci étant dit, alors à quoi faudrait-il s'attendre, justement, plus précisément, en ce qui concerne, justement, l'avenir de l'accord nucléaire? Parce que là, l'Iran a rejeté toute renégociation. Du côté, malheureusement, des Européens aussi, il paraît qu'il existe un certain suivisme de la politique hostile américaine.
Alors, par rapport à l'accord sur le nucléaire iranien, je crois que, de toute façon, cet accord a pris énormément de temps pour se réaliser déjà. Ça a été une volonté d'épuisement dans les discussions et la négociation, à mon avis, et l'Iran en est sorti triomphant. Une volonté de la part des Occidentaux qui continuaient à tergiverser, et je me rappelle même les Européens jusqu'à la dernière minute La France, par exemple, jusqu'à la dernière minute, y était opposée, mais aussitôt qu'il a été accordé, qu'il a été conclu, Laurent Fabius a accouru à Téhéran pour vouloir, avec des hommes d'affaires, pour signer des contrats, etc. Et fort heureusement, il a été bien reçu par le peuple iranien, qui lui a dit retournez là où vous êtes, d'où vous êtes venu. Vous êtes un ennemi de l'Iran en fait, ce moment-là. Donc je crois que personne des peuples, au niveau des peuples, on ne s'y trompe pas, et on ne se trompe pas non plus en ce qui concerne un visage souriant, ou quel que soit peu souriant, des États-Unis. C'est un pays qui a toujours agressé les autres. Il y a des millions et des millions de morts à travers la planète par leurs bombes atomiques, par leurs agents orange, par leurs guerres bactériologiques et par leurs agressions répétées. Et en fait, aujourd'hui, même le peuple américain s'en trouve aussi menacé, les peuples européens aussi, et tous les pays qui ont été appauvris, tous les pays riches qui ont des ressources naturelles et des ressources dans leur pays complètement qui sont très riches. Je pense à l'Afrique, je pense à l'Iran, je pense au Venezuela, je pense à la Syrie, etc. Tous ces pays, ils ont cherché toujours. Les Américains ont toujours cherché à appauvrir les peuples, mais les pays de l'OTAN aussi, les Européens, sont des anciens coloniaux, c'est les colonialistes qui ont toujours voulu dominer le monde et piller les ressources des autres pays pour l'enrichissement de quelques groupes, et puis appauvrir la planète pour la mettre à genoux et la piller. Donc tous ces pays, ils ne savent pas traiter d'égal à égal avec les autres pays. L'OTAN, tous les pays de l'OTAN, en fait, notamment les pays principaux de l'OTAN, la France, l'Angleterre et les États-Unis et l'Allemagne, ils ne savent pas traiter avec les peuples d'égal à égal. Ils ne savent pas du tout quelles sont les relations gagnant-gagnant. Ils ne sont que dans la domination et l'esclavage. Donc, de toute manière, aujourd'hui, avec le renforcement de ces peuples, ils ont tout à craindre, je dirais.
Merci, Madame
Milani. Malgré toute leur démagogie démocratisante, etc.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Monsieur le professeur Dortiguier. Monsieur Dortiguier, il nous reste 2 minutes. Excusez-nous. Alors, le leader de la révolution islamique a souligné que les Européens, malheureusement, avaient agi avec la grande hypocrisie et méchanceté envers la nation iranienne. Quand est-ce que le moment de vérité viendra pour les Européens, Monsieur le professeur?
Il viendra malheureusement par deux facteurs. D'abord, un appauvrissement de notre économie qui tient justement à ce que nous nous sommes mis entre les mains de forces financières qui ne cherchent pas du tout l'intérêt des peuples européens, mais qui cherchent justement à faire du monde ce qu'ils appellent un village, ce qu'on appelle les globalistes, c'est-à-dire qu'ils veulent en réalité mêler les peuples les uns aux autres, leur faire perdre conscience de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils peuvent faire même, et de les faire vivre, disons, dans une sorte de cauchemar qui est entre l'utopie et des mœurs, bien sûr, qui les affaiblissent. Je parle des matières, des manières morales de vivre, etc., dans la jeunesse en particulier, dans cette éducation qui me touche beaucoup comme ancien professeur de philosophie. Et là-dessus, je crois qu'il y a une véritable décadence de l'Europe, ça a été... C'est marqué. Les États-Unis, bien sûr, aussi ont été touchés par cela. Il y a des États qui essaient de résister. On pense à la Russie, mais il y a quand même beaucoup de forces mafieuses, des choses comme ça. Finalement, je crois que le dernier mot serait qu'il faut, comme disait le général de Gaulle et d'autres personnes, il faut que les États et les peuples aient confiance en eux-mêmes. Il faut développer en soi le sentiment de l'autonomie. Voyez-vous, c'est ce que disait la philosophie allemande classique, et je crois que l'Iran doit se l'appliquer et doit se montrer comme cela un exemple aux autres peuples. Il ne faut pas attendre d'utopie quelconque, des solutions économiques, des solutions, disons, miracles, qui apporteront, disons, du confort à de la paresse. Non, il faut cultiver des vertus du travail, cultiver des vertus, disons, d'obéissance, disons, à des lois morales fortes. Ceci, nous l'avons abandonné en Europe et nous l'en payons un prix très cher. C'est ça. Merci. La véritable victoire, justement, de, général martyr. Sa victoire, ça a été d'apparaître tel qu'il devait être et de donner cet exemple-là, voyez-vous, à ceux qui étaient autour de lui. C'est ce qui l'a fait réussir, à mon avis, dans tous les plans, y compris sur les plans les plus empiriques. Et c'est donc cette image-là qu'il peut montrer à son pays. Malheureusement, nous, en Europe, nous n'avons plus d'image à donner à nos générations futures, voyez-vous.
Et merci, monsieur le professeur.
C'est pour ça que nous tournons. Nous sommes quelques-uns ici, à tous les âges, voyez, à voir avec sympathie, justement, les efforts, les luttes des peuples en Syrie, des peuples de l'ancien Empire ottoman, par exemple, qui a été détruit en 1919. Nous voyons cette force de l'Iran, qui, pour nous, disons, est également une leçon dans l'avenir. Mais pour l'instant, dans le présent actuel, je crois que ce sont des paroles comme celle de l'Ayatollah Khamenei qui, croyez-moi, touchent beaucoup de gens ici. Je connais beaucoup de personnes qui sont des chrétiens, qui sont des musulmans, qui sont des philosophes, par exemple, qui sont très sensibles à ces paroles-là. Mais nous sommes soumis à une dictature de fer, à quelque chose d'épouvantable, qui est véritablement, pour le dire le mot, satanique. Mais nous savons que Satan, vous savez, il peut durer 1000 ans, si vous voulez, mais au bout de 1001 ans, il est obligé de rendre des comptes. Nous pensons que nos dirigeants, nos mauvais dirigeants, disons, rendront des comptes.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse, Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne de questions internationales depuis Paris, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Ici, le Moyen-Orient.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité du Moyen-Orient. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a exprimé sa gratitude envers l'effectif infirmier du pays pour ses énormes sacrifices pendant la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, les infirmières sont plus chères et plus honorables aux yeux de la nation que jamais auparavant, a noté le guide suprême de la révolution islamique. Avant de souligner, les infirmières sont les anges de la miséricorde pour les patients. C'est une vraie définition, pas une exagération. En aucun cas, a-t-il souligné lors d'une allocution télévisée en direct dimanche à l'occasion de la journée nationale des infirmières marquant l'anniversaire de la naissance de la vénérable Zeynab, béni soit-elle, petite fille du noble prophète de l'islam, le très vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Les infirmières ont été constamment présentes dans les hôpitaux et les centres médicaux pendant l'épidémie qui a duré un an, remettant leur propre vie en danger, a fait remarquer l'honorable Ayatollah Khamenei. Pour être juste, notre communauté infirmière a accompli une tâche formidable pendant cette période, a-t-il précisé. L'honorable Ayatollah Khamenei a félicité les infirmières à cette occasion, tout en exprimant ses condoléances à la communauté infirmière, dont beaucoup ont perdu la vie du fait d'être en première ligne de la lutte contre le COVID-19. Il a déclaré que dans le cadre de leur profession, les infirmières s'occupent à la fois du corps et de l'âme du patient, ce qui est un rôle remarquable. L'honorable Ayatollah Khamenei a décrit cette tentative d'atténuation de la douleur d'un être humain comme l'un des plus beaux spectacles de la vie. Le guide suprême de la révolution islamique a déclaré qu'avant l'émergence de l'épidémie de COVID-19, les gens n'attachaient pas autant d'importance à la profession infirmière qu'aujourd'hui. Cependant, cela ne suffit pas, a-t-il souligné, conseillant aux autorités du pays de revoir l'importance qu'elles accordent à cette vénérable prophétie. L'Iran condamne l'attaque de l'ambassade US à Bagdad et évoque des soupçons sur son origine. lors d'un point de presse ce lundi 21 décembre à Téhéran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a condamné les attaques aux missiles ayant visé dimanche l'ambassade des États-Unis en Irak. Cependant, le porte-parole de la diplomatie iranienne a estimé que le timing de l'attaque et la déclaration du département d'État qui s'en est immédiatement suivi soulevaient de sérieux soupçons. L'attaque contre des bâtiments diplomatiques et résidentiels est inacceptable, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. Cependant, il a ajouté que le type et le moment choisi de l'attaque, ainsi que la déclaration publiée par le département d'État américain, soulèvent de sérieux soupçons, comme si la déclaration avait été préparée auparavant et publiée immédiatement après l'attaque, a-t-il souligné. Encore, le ministre syrien des Affaires étrangères qualifie de stratégique et profonde les relations syro-russes. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a affirmé que les relations syro-russes sont stratégiques, remontent à une longue histoire et se consolident davantage, faisant savoir que les pays qui avaient soutenu le terrorisme et commis de crimes en Syrie doivent payer le prix et que l'Occident doit redresser sa ligne létale dans le monde. Dans un entretien qu'il a accordé au correspondant de Sana à Moscou au terme de sa visite à la capitale russe, Faisal Miqdad a dit il est important pour les deux parties syriennes et russes d'aller de l'avant dans les relations bilatérales, qualifiant de très positif ses pourparlers avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il a précisé que les entretiens avec les responsables russes étaient également profonds et qu'il avait porté sur la situation actuelle en Syrie et sur le soutien qu'apporte la Russie à la Syrie dans la lutte contre le terrorisme. Le peuple syrien apprécie le soutien que lui apportent les amis, en particulier la Russie, a-t-il fait noter, faisant cette allusion aux visites menées il y a des semaines par des délégations syriennes en Fédération de Russie, en vue d'approfondir les relations commerciales, économiques, culturelles, scientifiques et de développement. Questionné sur la souffrance de la Syrie à cause de terrorisme, d'occupation et de sanctions imposées par les États-Unis, Faisal Miqdad a indiqué que les mesures coercitives et unilatérales visant la Syrie sont des mesures inhumaines qui s'élèvent au niveau des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Faisal Miqdad a en outre fait savoir que les politiques américaines sont inhumaines, appelant les pays occidentaux à redresser leur ligne de meurtre contre les pays en voie de développement. Quant à la reconstruction, Faisal Miqdad a qualifié de gigantesque la destruction menée par les groupes terroristes contre la Syrie sur ordre de leurs commanditaires dans les pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe occidentale, en plus de certains pays de la région, tout en affirmant « toutes ces parties doivent payer le prix de ces crimes ». S'ils veulent que de leur conscience s'apaise dès maintenant jusqu'au siècle à venir. Concernant la position russe rejetant l'occupation américaine, turque et israélienne des parties des territoires syriens, Miqdad a dit que la politique de la Russie est publique et qu'elle l'adopte devant le Conseil de sécurité et dans les autres institutions de l'ONU. À propos du comportement de l'OIAC et de sa partialité contre la Syrie, Faisal Miqdad a assuré que cette organisation n'œuvre pas uniquement contre la Syrie, mais aussi contre la Fédération de Russie et qu'elle est devenue une organisation politisée et gérée par les pays occidentaux. Concernant l'action du comité de débat de la Constitution, le chef de la diplomatie syrienne a indiqué que le peuple syrien veut que la constitution syrienne soit élaborée par les Syriens et qu'elle insiste sur la souveraineté et l'unité des territoires et du peuple de la Syrie et qu'elle n'autorise aucune ingérence étrangère. Faisal Miqdad a enfin souhaité les meilleurs vœux aux chrétiens dans le monde et en Syrie à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An, appelant au respect des valeurs de la justice, de la paix, de la foi, de l'égalité que Jésus-Christ avait diffusées dans le monde
entier.
Au Yémen, le mouvement Nasser Allah a abattu un drone d'espionnage saoudien en plein vol dans le ciel de Ma'rib, à l'est du pays. Selon Al-Masira, le général de brigade Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé la destruction d'un drone d'espionnage saoudien par une unité de défense antiaérienne de l'armée des yéménites, précisant qu'il s'agissait d'un drone de l'armée de saoudienne. Le drone a été abattu lorsqu'il accomplissait une mission d'espionnage au-dessus du district de Makdal, appartenant à la province de Ma'rib, a souligné le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. Le drone CH-4 qui a été abattu par le mouvement Nasser Allah dispose des ailes longues de 18 mètres et il a une portée de 5000 km. Ce drone peut voler dans une altitude visant de 5000 jusqu'à 7000 mètres et il s'engage dans des opérations militaires pour recueillir des informations. Par ailleurs, les combattants yéménites poursuivent leurs opérations dans le nord-ouest, le sud-ouest et le sud de la province de Ma'rib afin de récupérer les zones occupées par les mercenaires à la solde de la coalition d'agression saoudienne. Une source qui suit de près les évolutions dans la province de Ma'rib s'exprime sur les détails des affrontements dans le district de Raqwan au nord-ouest de Ma'rib. Des affrontements sont en cours dans la localité d'Al-Sahel au nord du district de Raqwan et les combattants yéménites essaient de reprendre le contrôle de cette région. La source yéménite a ajouté que les combattants d'Ansar Allah essayaient de sécuriser la localité fraîchement libérée d'Al-Sambra au sud de Raqwan. Les affrontements sont aussi en cours en banlieue de Fatiha et de Nalha à l'est et au nord-est de Madral, d'où les combattants yéménites essaient d'atteindre la ville de Ma'rib, précise toujours cette source. Thank you.